la salle des Perret, 125 rue Armand Sylvestre, le foyer Jean-Blot, le foyer Frodenstadt dans l'espace Jean-Pierre-Rive, la salle Nautilus située au-dessus de la patinoire, ainsi que la salle Sacha Guitry située dans le centre culturel Hôtel de Ville. Les forfaits tarifaires peuvent être définis selon l'occupation ponctuelle. Par ailleurs, le nouveau centre événementiel offre de nouveaux espaces de qualité permettant l'organisation de manifestations prestigieuses propices au rayonnement de la ville. Il convient donc de définir les tarifs de mise à disposition de ces salles et des prestations y afférentes à destination des entreprises, des particuliers et du monde associatif, et ce concernant les salles du nouveau bâtiment Colomb. Il est demandé au Conseil d'approuver les tarifs des salles municipales, la salle extérieure de Jean-Blot, le foyer Frodenstadt, la salle Nautilus, la salle Sacha-Guitry, ainsi que les salles du centre événementiel et du nouveau bâtiment à Colombes, telles qu'ils figurent dans le projet de délibération joint à la convocation à la présente séance.
Oui, alors moi je voudrais revenir sur les tarifs du bâtiment dont on vient de parler, c'est-à-dire le centre événementiel. Parce que vous nous indiquez des tarifs qui ne permettent pas de savoir exactement ce que ça recouvre. Notamment, on a un chiffrage sur les mètres carrés, mais après, est-ce que ça recouvre par exemple du matériel tel que vidéoprojecteur, écran, micro, estrade, accès à internet, wifi, cuisine, matériel à disposition dans les studios, etc. Ça, on ne sait pas. Par ailleurs, vous avez une tarification avec deux tarifs présentés. D'une part, les entreprises, congrès, assemblée générale, spectacle, exposition. Et d'autre part, un tarif pour les associations et les particuliers. Pas de mention de tarif spécifique pour les Courbevoisiens. Ça, c'est un petit peu étonnant. On aurait très bien pu imaginer un tarif pour les particuliers courbevoisiens et un tarif jeune en ce qui concerne les studios, un tarif association courbevoie et puis un tarif entreprise, association et particulier non courbevoisien. En ce qui concerne les tarifs pratiqués, alors ce qui nous a particulièrement frappé, c'est les prix pratiqués pour les studios. Enfin, le studio. On a là des tarifs qui sont très très importants par rapport à d'autres. La location d'un studio de répétition est de 26 euros hors taxe et 66 euros hors taxe pour le studio d'enregistrement. À Paris, pour la même chose, on compte entre 15 et 40 euros. Donc là, on a déjà une différence importante. En ce qui concerne les espaces plus importants, on regarde, si on compare avec d'autres villes voisines, on voit par exemple à Levallois un espace de réception de 280 mètres carrés à 400 euros pour les particuliers. À Courbevoie, on passe de 280 mètres carrés à 300 mètres carrés, donc 20 mètres carrés plus. Et là, on passe de 400 euros à 2000 euros. Donc, on a des tarifs qui sont très, très supérieurs à ce qui est proposé, par exemple, à Levallois. Même chose pour la salle 1000. À Puteaux, par exemple, la salle 743 places est proposée à 2800 euros pour les entreprises. À Courbevoie, la configuration 1000, donc dans la salle de spectacle la plus importante, est à 8000 euros. Donc là, on a des montants qui sont quasiment triplés. On pourrait continuer, il y a d'autres exemples à Boulogne ou à Clichy. À Clichy, par exemple, pour le prix d'un studio, c'est 6,50 euros l'heure ou un forfait de 20 heures à 105 euros. À Courbevoie, 3 heures, c'est 200 euros. Une demi-journée, 400. Donc, les questions que je vous pose, c'est comment est-ce que vous avez fait ces calculs, d'où viennent ces montants, et surtout quel est le modèle économique que vous proposez pour le centre événementiel de Courbevoie. Nous vous demandons, nous, un budget prévisionnel de fonctionnement. Nous aimerions savoir quels sont vos objectifs pour les locations de ces salles en 2014. Et nous aimerions avoir donc un bilan sur l'année pour vous, voir justement si ces tarifs attirent ou non les Courbevoisiens, les entreprises, les associations.
Bien évidemment, comme d'ailleurs on l'a évoqué, je ne sais plus si c'est au mois de mai ou au mois d'avril, dans ce conseil, il y aura un suivi strict, comptable, analytique et détaillé de l'ensemble des dispositifs mis à disposition du public. Et quand je parle du public, je pense notamment aux différentes personnes qui sont susceptibles d'utiliser cet événement. D'une part, la ville elle-même, dans le cadre d'une convention de mise à disposition gracieuse, naturellement, cette disposition à elle-même ses installations. Deuxième population, ce que nous avons appelé les associations et les particuliers. Et enfin, le troisième public, qui sont les entreprises, pour les congrès ou autres spectacles, des expositions. Alors, dans ce cadre, je vous rappelle que nous vous avons adressé le budget prévisionnel tel qu'il a été basé, synthétique certes, mais avec quand même des moyens qui correspondent à des analyses qui ont été effectuées, notamment sur toute la partie consommable. Bon, je vous rappelle qu'il y a donc la partie fluide, il y a toutes les parties qui concernent les contrats d'entretien et de maintenance qui ont donné lieu donc à une délibération, et puis des masses salariales destinées à assurer donc le bon fonctionnement de cet outil. Un directeur a été mis en place, on l'a évoqué, et ensuite toute synergie sera étudié pour mise en place d'ici la fin de l'année d'une équipe qui permettra de pouvoir fonctionner, commercialiser dès le 1er septembre l'ensemble de l'outil. Donc ça, ce sera correctement suivi. Vous pouvez, on s'en fait une ligne de conduite naturellement, et puis ça fait partie de la bonne gestion naturelle des choses. Le but est que la commercialisation, j'allais dire professionnelle, puisse couvrir les charges générées par le fonctionnement de ce bâtiment, avec pour objectif fonctionné, au bout d'un certain nombre d'années d'exploitation, 3 ans, de pouvoir, enfin 3 ans par exemple, de pouvoir assurer un équilibre de ces coûts de fonctionnement. Les tarifs qui sont proposés ont fait l'objet d'un benchmark, notamment en ce qui concerne la partie congrès destinée aux entreprises et par rapport notamment aux salles similaires qui sont proposées sur le marché. Je pense notamment à travers les prestataires comme Viparis qui gère des salles du centre de congrès de la Défense, ou qui gère d'autres salles parisiennes, dont notamment le centre de congrès, mais tout un tas d'autres salles sur Paris. Et donc, nous avons positionné cette grille de tarifs à un niveau qui nous permette effectivement de couvrir les charges qu'on a pu cibler, mais aussi qui reste, compte tenu de son implantation, l'accès de cet outil qui reste compétitif par rapport à ce que l'on peut trouver, ce que les entreprises peuvent trouver par ailleurs. Donc c'est dans ce cadre que ces tarifs ont été arrêtés. Avec, ça je parle pour les tarifs non pas grand public, mais entreprises professionnelles. Et donc il en a été découlé des tarifs pour les associations et les particuliers, sans distinction de Courbevoisiens et de non-Courbevoisiens, puisque ce serait illégal. Puisque même si certaines communes le pratiquent chez eux, il n'en demeure pas moins que le Conseil d'État a pris une disposition, enfin a pris un arrêt, a rendu un arrêt, ça fait déjà un certain nombre d'années, en la matière, comme quoi cette discrimination entre Courbevoisiens, enfin habitants d'une ville et non-habitants d'une ville, ne serait pas, enfin, n'est pas conforme effectivement à l'esprit de la loi. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de tarif spécifique pour les Courbevoisiens, mais bien évidemment, les particuliers et les associations se reconnaîtront à travers des tarifs qui sont proposés et bien évidemment les services seront bien évidemment en charge de suivre la préférence, effectivement la priorité qui seront données aux structures pour les loisirs et aux habitants de la ville.
Nous avions proposé l'établissement d'un budget annexe, je réitère, pour qu'il y ait un meilleur suivi. Ce que nous avait communiqué est un peu ciblé. Il y a ensuite tout ce qui est lié au coût de fonctionnement, donc on peut faire un business plan derrière, ce qui manque cruellement. Et ce que nous disons, c'est que sur la tarification, il y a plusieurs types de salles, plusieurs prestations. On ne pratique pas, dans ce qui est proposé, une présentation tarif. Les services qui sont proposés, tels pour les retours sur le marché. Les indications ne sont pas claires. Que ce soit sur les questions que vous avez posées, sur la nature des équipements que cela recouvre, etc., etc. Donc, ceci pour dire que si c'est cette grille qui est utilisée avec ces indications, je ne suis pas certain que le marché s'y retrouve. Et par ailleurs, il y a plusieurs catégories de salles, et certaines salles, en tous les cas, sont trop chères. Nous avons fait les comparaisons, nous avons regardé. Comparé avec les usages qui peuvent être faits par ailleurs, les politiques d'achat, et disons simplement que nous ne sommes pas certains de la pertinence de cette politique de tarification.
Notamment pour les entreprises.
Oui, pour les entreprises. On voit donc, et alors pour ce qui est des autres, c'est-à-dire associations et particuliers, nous pouvons que c'est quand même plutôt élevé pour les associations, surtout les associations de proximité ou celles de notre ville. C'est pour ça qu'on a cherché à le différencier, parce qu'on comprend bien que les associations qui sont en réalité de grosses structures qui elles-mêmes sont assimilables à des entreprises, on considère qu'il faut qu'elles rentrent dans notre catégorie. C'est pour ça qu'on a voulu un petit peu les isoler, puisque le traitement également n'est pas forcément le même. Ouais, la tarification paraît élevée et le descriptif du service pas clair.
Concernant les entreprises, alors, parce que le benchmark qui a été effectué nous situe quand même en dessous, je dirais, c'est intéressant d'échanger, mais en dessous de ce qui se pratique, notamment pour des salles de ce niveau et de cette qualité, évidemment, avec un équipement complet en espace congrès, en espace spectacle, hein, qui n'est pas négligeable. Hein. Donc ça, c'est bien sûr toute cette configuration, quand on précise la salle mise en configuration spectacle ou congrès, c'est tout équipé avec la sonorisation, etc. Et tout. Donc là, c'est un ensemble total qu'il en a et permettant de pouvoir réaliser donc, la totalité de la prestation. En ce qui concerne maintenant les tarifs aux associations et particuliers, notamment en ce qui concerne les associations, et plus particulièrement les associations communautaires, les tarifs rentreront dans leur budget, dans leur projet, et puis on étudiera avec elles pour celles qui ont un besoin effectif de ces salles, qui sont des salles mille, pas n'importe quelle association non plus,
voire les autres salles.
Mais bon, la salle 300 en configuration exposition ou en configuration spectacle à 1 500 €, c'est quelque chose qui peut parfaitement se budgéter, s'inscrire dans le budget d'une association et donner lieu effectivement à négociation avec la ville dans le cadre de son budget de fonctionnement et non plus par rapport au tarif qui correspond à la valeur réelle de l'utilisation du bien. Donc les configurations sont bien compris, c'est full service pour permettre avec sécurité, etc., tout ce qui tourne autour pour permettre un fonctionnement normal, un déroulement normal des interventions qui auront lieu. Et on fera le bilan, bien évidemment, au bout d'un an. Déjà, les premiers contacts qui sont pris sont déjà très intéressants. Un certain nombre de personnes, d'entreprises nous sollicitent. Et donc, on fera un bilan au cours du deuxième semestre pour voir un petit peu où on en est.
Monsieur Weinstock, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci de ces suivants, monsieur Gibret.
Ensuite, il s'agit d'une garantie d'emprunt au profit de l'OPH Courbevoie Habitat pour la réhabilitation de la résidence Pelsé-Goffin. Donc l'OPH Habitat entreprend une vaste opération de réhabilitation sur la résidence Pelsé-Goffin, dont les travaux se ventilent de la manière suivante. Donc c'est un budget total de 3 638 025 €, qui comprend le menuiserie extérieure et intérieure, la ventilation, l'étanchéité et la rénovation des façades, qui représente 2 459 000 euros sur ce budget. Pour financer ces travaux, le BH Habitat a obtenu de la Caisse d'Épargne un emprunt de 3 millions d'euros. Il sollicite la liste de garantie à hauteur de 100%. Vu l'intérêt de ce projet, il propose au Conseil d'accorder cette garantie d'emprunt de 100% au montant total de 3 millions d'euros au titre du prêt octroyé par la Caisse d'Épargne à l'OPH pour le voie d'État et de m'autoriser à signer tout acte relatif à cette opération.
Merci, dossier suivant.
Il s'agit des décisions modificatives au budget 2014, décision modificative numéro 2. Ces décisions, la présente décision modificative va s'équilibrer en dépenses et en recettes à 532 000 euros. En investissement et en fonctionnement, conformément aux tableaux qui ont été joints à la convocation. Je vais donc demander au Conseil de voter les modifications modificatives numéro 2 au budget, qui concerne notamment un certain nombre de points qui ont été abordés au cours de ce Conseil, relatifs notamment aux investissements sur le projet festif, intégrant en cela les pénalités de retard en recettes d'investissement pour 530 000 euros et compléter la liste des subventions octroyées aux associations selon le document qui a été joint à la convocation.
Question ?
Oui, on a un certain nombre de questions. On se posait la question de cette fête, cette condamnation contre l'asile, l'euro, en gros, de quoi retourne-t-il ? Les 532 000 euros de pénalité de retard, alors est-ce que c'est lié du coup à ce qu'on a dit avant ?
Absolument, tout à fait.
Alors, on a aussi un point, alors c'est peut-être pour effectivement assurer des ordres de grandeur sur le coût festif. Donc, cette décision modificative, donc en gros pour les gens qui n'ont pas le document, donc il y a un certain nombre de subventions supplémentaires pour les associations, on n'a pas de remarques particulières. Il y a un certain nombre de réduction de dépenses d'investissement pour un certain nombre de travaux. Et par contre, on a quand même une grosse partie qui est donc une augmentation, donc il y a marqué construction festif et parking festif. Donc il y a encore 780 000 euros que vous demandez de voter pour le centre événementiel. Donc ça fait encore 800 000 euros en plus des montants de l'avenant transactionnel, enfin voilà. Donc du coup, question sur effectivement cette condamnation de 1 000 euros, et du coup sur ce pôle festif, est-ce qu'effectivement c'est bien des montants encore supplémentaires, et du coup, quels montants peut-on retenir pour, avec ces montants-là, in fine, pour le centre événementiel ? J'ai en tête moi, à peu près 66 millions, et du coup il y a donc cet avenant pour solder une réclamation des entreprises, et il y a encore donc c'est quasiment 800 000 euros de plus là-dessus. Donc voilà, une question.
Commençons par le point le plus significatif, c'est le complément de budget. Ce complément de budget, donc de 785 000 euros, qui concerne donc le centre festif, est inclus bien évidemment dans l'avenant de 2 750 000 euros que nous avons voté tout à l'heure. Donc, c'est un complément d'inscription. Complément d'inscription qui, comme vous le voyez, s'équilibre d'ailleurs avec la recette d'investissement constituée par les pénalités de retard qui seront versées par le groupement d'entreprise GTM. Et compte tenu donc d'un certain nombre de budgets qui ont été prélevés sur des opérations où le budget était conséquent. En fait, c'est un impact neutre par rapport à des budgets d'investissement. Ça s'équilibre en recettes et en dépenses. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire.
Du coup, quel,
Pour quel prix retenez-vous pour le pôle centre événementiel, du coup?
C'est ce chiffre de 60...
Impact par rapport au budget primitif 2014 voté zéro, puisque le montant des 781 000 euros non budgétés sont couverts d'une part par les pénalités de retard de 532 000 euros et par quatre prélèvements sur quatre budgets d'investissement qui ne seront pas totalement réalisés au cours de l'année.
Mais juste pour revenir sur le coût de l'équipement,
du coup, in fine, le coût de l'équipement.
Alors, le coût de l'équipement.
Il faut dire qu'il est à combien?
Le prix de l'équipement in fine, je le donne tout de suite, il est de 57 658 567 euros hors taxe.
Et on ne paye pas la TVA là-dessus.
TVA en sus.
On la paye.
Oui, bien sûr. Et après, on obtiendra le remboursement.
On aura le remboursement, enfin, je vais d'accord.
C'est sur 2015.
Donc on peut dire en gros, comme on récupère TVA, donc cette centrale événementielle aura coûté 58 millions d'euros.
57 millions, si c'est
ça. Oui, enfin, si on dit 58 millions, d'accord. Merci. Et donc,
les 1000 euros, c'est un litige avec Free Mobile dans le cadre d'un arrêté de refus d'installation d'une antenne mobile pour laquelle la ville a été mise.
Donc là-dessus, nous, en ligne avec votre contre pour cet avenant sur le centre événementiel, nous voterons contre cette décision définitive.
Bien. Le reste qui s'abstient. Bon. Oh, merci. Si, juste sur les assurances, une question qui concerne l'association des commerçants, puisque en 2013, vous avez mis en place une cotisation obligatoire prélevée sur le mètre linéaire des commerçants et qui n'apparaît pas dans le budget de l'association. Est-ce que ça veut dire qu'on a abandonné ce dispositif ou est-ce que c'est un oubli? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, pas du tout. Il est en vigueur. En fait, aujourd'hui, je crois que c'est une centime par mètre linéaire supplémentaire.
Il n'apparaît pas dans.
Non.
Donc elle reçoit la
fait partie des droits de place qui sont perçus par les régisseurs pour le compte de la ville et qui rentrent dans les recettes de ville. Donc, le complément de budget de recettes générées par cette délibération sera affecté au projet que développe cette association. Et donc, ce montant va pouvoir être valorisé.
Abonder celui.
Voilà. Donc, en fait, valorisé à mi-année et il sera reversé sous forme de subvention dont le montant n'est pas arrêté définitivement. C'est pour ça que l'association des commerçants du marché ne perçoit à ce jour, nous votons à ce jour qu'un acompte de 10 000 euros sur le montant des subventions sollicitées en attente de la finalisation de leur projet. Il y a 4 projets d'action dans le projet.
C'est cette lettre qui avait été distribuée à commerçants.
C'est pas très clair dans le dossier.
La ville fait ça, donc nous ne voulons pas que ça se
passe. Dans le dossier,
on a bien son texte. Je pense que c'était la lettre que vous aviez envoyée aux commerçants du marché pour leur dire non, la ville vous fait payer quelque chose, refusez-le.
Nous avons dit que ce n'était pas une formule très correcte et qu'il valait mieux privilégier les subventions. Mais justement, c'est pour ça qu'on a regardé attentivement et on ne les voyait pas apparaître, à notre grande surprise. Voilà. Bon, et donc on suivra de très près le montage qui a l'air complexe. En tous les cas, le dossier n'est pas très clair.
Qui s'abstient pour cette décision? Qui vote contre? Merci, M. Gimenez, ambassadeur de la CUPA.
Alors,
ce
dossier concerne le logement social et l'objectif de réalisation pour la période 2014-2016. La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a spécifié que les communes de plus de 3500 habitants devaient réaliser 20% de logements sociaux. Depuis cette date, les différentes opérations d'urbanisme et les programmes réalisés dans le DIFU ont permis à la ville d'atteindre et même dépasser cet objectif, puisqu'au 1er janvier 2013, la commune comptait 22,10% de logements sociaux. Cependant, la loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a majoré ses objectifs légaux à 25%. La commune étant désormais en deçà du taux légal, en application des dispositions de l'article L302-8 du Code de la construction et de l'habitation, le conseil municipal doit définir un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Pour la période 2014-2016, cet objectif ne peut pas être inférieur à 25% du différentiel de logements sociaux et, en l'absence de PLH, la part des logements financés au PLS ne peut pas être supérieure à 30% et celle des logements financés en PLAI ne peut pas être inférieure à 30%. Je vous propose donc de définir cet objectif qui, pour la période 2014-2016, pourrait être le suivant. Nombre de résidences principales au 1er janvier 2013, 39 982. Nombre de logements sociaux théoriques imposés, 25%, 9 995. Nombre de logements sociaux au 1er janvier 2013, 8 835. Nombre de logements sociaux manquants, 1160. Objectif de rattrapage, 25%, soit une différence sur 2014-2016 de 290. Donc le nombre minimum de PLAI, 30% du déficit, serait de 87, et maximum PLS, 30% du déficit, 87.
Question, merci. Monsieur.
Bien, en appelant à voter ce soir pour cette délibération, vous demandez au conseil municipal de valider un objectif fixé à 290 logements sociaux jusqu'en 2016, conformément au renforcement de la loi SRU. Rappelons que ce renforcement a pour objectif de répondre à l'urgence en matière de logements sociaux en portant les seuils de production à 25% dans les zones tendues et on ne peut que s'en féliciter. Cependant, vous avez choisi de placer la ville juste dans le seuil minimum imposé par la loi. En cela, vous démontrez que le choix pour les trois années à venir relève plus d'une simple formalité visant à se mettre en conformité vis-à-vis de la loi. Les constructions prévues répondent-elles réellement aux attentes de la population? Pas vraiment. En matière de logement social, Courbevoie n'a construit que du PLS, prêt locatif social, des années précédentes. La délibération de ce soir indique que 87 logements seront à nouveau du PLS dans les trois années à venir. Pour mémoire, qui a accès au PLS? En moyenne, 6 Français sur 10 ont des revenus qui les rendent éligibles au logement social. Sur cette proportion de 60% de la population, seuls 10% ont des revenus leur permettant d'accéder à un logement en PLS. Exemple de PLS à Courbevoie. Un logement étudiant de 24 mètres carrés dans Faubourg de l'Arche à 800 euros par mois. Le constat est que ce type de logement ne répond pas vraiment aux objectifs de logement social et aboutit même à exclure des ménages aux revenus plus modestes, ce qui n'est pas acceptable et pas dans l'esprit de la loi. La crise du logement est nationale et elle appelle à un effort de toutes les communes. À Courbevoie, on construit beaucoup de PLS tout en attendant la mise en place d'un PLH. Programme local de l'habitat. L'intercommunalité que présidait M. le maire précédemment en avait voté le principe en 2011, mais depuis, rien n'est sorti. Est-ce par faute de temps ou de moyens? Le marché du logement est aujourd'hui totalement figé sur la ville. Et pour les nouveaux courbevoisiens, aucun programme d'ensemble et cohérent, conséquent, n'a été prévu pour les accueillir. 3000 entre 2009 et 2013, auxquels auraient pu s'ajouter les salariés des nouvelles tours de la Défense. Mais aujourd'hui, quel choix est-il laissé à ces nombreux habitants existants ou potentiels, comme pour les jeunes natifs de Courbevoie qui démarrent dans la vie et qui ne pourront pas se loger dans la ville où ils ont grandi? L'objectif de logements sociaux que vous proposez de construire dans les 3 ans est vraiment insuffisant et ne répond pas aux problèmes que se posent les habitants de cette ville. C'est pourquoi les élus du groupe Tous pour Courbevoie s'abstiendront sur ce vote.
Nous répondons à un objectif de PLAI de 30%, c'est ce qui est demandé. Donc, nous avons des pistes de réflexion sur ces périodes communales qui sont en cours de réflexion. Donc, nous ne sommes pas, je dirais, autrement s'aperçoit que les autres villes vivent ce que nous vivons, à savoir une pénurie de logements sociaux. Bon, nous avons quand même 4500 appartements OPH en ville, enfin 8000 au total, donc 4500 OPH. Donc la préfecture, par le biais du dispositif d'ANO, en a récupéré 1300, qui s'adresse à des publics en grande difficulté. Donc c'est la loi.
Bon, la loi fixe un minimum, on aurait pu aller au-dessus, surtout avec les paramètres qu'on a autour, c'est-à-dire, par exemple, là, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, on a livré des nouvelles tours qui sont censées amener des salariés, des dizaines, enfin des milliers de salariés, on va dire, et les moyens de transport en parallèle qui ne sont pas du tout développés. Donc on aurait pu...
De toute façon, ils n'arriveront pas tous à l'époque.
Oui, pas tous.
En plus, il va y avoir différentes périodes triennales. Nous avons actuellement des pistes de réflexion, puisque de toute manière, il va falloir arriver à ces 25%. Il y a des pistes de réflexion qui seront données. Donc, pour toutes les catégories, ça pourrait être du PLAI, du PLUS, toutes sortes de catégories de logements.
En tous les cas, nous attendons avec impatience le PLH.
Tout à fait.
Bien, donc, on va passer au vote. Qui s'abstient ? Merci. Et contre ? Merci, Mme Radelac, M. Skelly.
Merci, M. le maire. Les études surveillées organisées tous les jours de classe, sauf le mercredi, dans les écoles élémentaires et primaires, sont assurées par le personnel enseignant rémunéré par la ville. Dans ce cadre, une convention précisant les modalités de fonctionnement et le montant de la rémunération peut être signée entre le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine pour les années scolaires 2014. 2015-2016 et 2016-2017. Il est donc demandé au Conseil d'approuver la convention qui a été jointe et d'autoriser M. le maire à la signer.
Question ? Ça tient. Et contre. Merci, M. Skelly.
Peut-être de noter que Mme Boucherie ne comprend pas au vote.
D'accord. Vous avez entendu son respect ? Oui. Voilà,
merci, M. le maire. Mes chers collègues, première délibération qui concerne le choix d'un délégataire pour la convention de délégation de service public pour la crèche au Petit Prince située sur le Mont Millénaire, qui va prendre effet à partir du 1er août 2014. Pour mémoire, le Petit Prince est une crèche de Carrefour-Verto et depuis 2008, cette crèche est donnée en délégation de service public. Donc, le principe de passation de délégation a été trouvé par le Conseil municipal le 24 septembre 2013. Et suite à la procédure de publicité et de mise en concurrence organisée par la ville, la commission de délégation de service public a proposé d'entamer des négociations avec les trois candidatures qui présentaient un projet acceptable au vu de leur garantie professionnelle financière et leur aptitude à assurer la continuité du service public, crèche attitude, éventuelle à Toulouse et la maison bleue. À l'issue de ces négociations, M. le maire a reçu l'activité éventuelle à Guilou, qui avait une proposition qui répondait un projet satisfaisant sur trois points, la qualité du projet pédagogique et éducatif, la qualité financière et la pertinence du règlement fonctionnement. Nous avons transmis à chacun donc, le rapport du choix du délégataire ainsi que le projet de convention de la société sur lequel vous êtes amené à vous prononcer aujourd'hui. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver la désignation de la société Evancia Batou comme délégataire de service public pour la gestion des structures d'accueil Petite Enfance sur Petit Prince 2, située sur la promenade du Millénaire, d'approuver le projet de convention de délégation pour la gestion des structures d'accueil Petite Enfance sur Petit Prince 2, étant précisé que cette convention pourra être présentée du 1er août 2014, et d'autoriser M. le maire à signer cette convention et tous les documents en découlant.
Question ?
Oui. Si nous ne pouvons que constater le sérieux de la procédure de passation d'une convention de délégation de service public pour la gestion de la structure d'accueil du Prince 2, nous nous interrogeons néanmoins sur les mesures de contrôle mises en place par la ville dans le cadre des DSP. Le précédent People and Baby a montré que la mairie n'a pas exercé en 2012 et 2013 de véritable contrôle sur les délégataires de service public en charge des crèches et autres structures liées à la petite enfance. La municipalité s'est en effet contentée de la remise par le délégataire de documents obligatoires pour assurer un simple contrôle administratif et financier, laissant à la Caisse d'allocation familiale et au Conseil général le soin de réviser le contrôle technique et médical. Même si ce dernier relève bien des deux organismes précités, il est illusoire de penser que ce soit suffisant pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants. En effet, le Conseil général, via la PMI, n'exerce dans les faits qu'un contrôle au mieux triennal sur les crèches. Par conséquent, nous aimerions connaître les moyens mis en œuvre par la mairie en matière de contrôle des crèches en DSP. Enfin, nous souhaiterions savoir où en est l'affaire People and Baby.
Rappeler quelques éléments sur la politique familiale. Il faut savoir que depuis plusieurs années, M. le maire mène une politique volontariste hein, dans le domaine de la politique familiale. Je le disais, nous sommes la première commune des Hauts-de-Seine à mieux doter en termes de berceaux, 2100 berceaux par jour pour les bourgeoisiens. Enfin, pour la ville, ça représente 20,5 millions sur le total du fonctionnement, soit près de 15% du budget de la ville. Et notre priorité à Courbevoie, c'est de satisfaire au maximum les familles. De pouvoir apporter à toutes les familles une solution de garde, que ce soit en crèche collective ou en crèche familiale, et vraiment pouvoir permettre, à travers l'accueil du tout-petit, aussi de promouvoir l'indépendance des femmes. Et notre priorité à Courbevoie, c'est la qualité de l'accueil du tout-petit et la sécurité dans nos structures. Et vous savez, moi, je suis chaque matin dans une crèche à la rencontre des parents et des agents de la petite enfance, et je me rends bien compte que les parents qui déposent leur enfant à matin sont sécurisés. Vraiment. Et nous avons des belles structures d'accueil sur Courbevoie, avec des espaces extérieurs, avec des agents dans nos structures municipales qui sont très dévoués, qui font un travail formidable. Alors c'est vrai que le choix, ça a été effectivement d'offrir un large panel de solutions de garde. Et nous assumons notre choix d'avoir développé des crèches municipales et des crèches privées en DSP pour élargir notre panel de solutions de garde sur la ville. Parce que vous savez, les familles, ce qui leur importe, c'est d'avoir une solution de garde. Peu leur importe finalement de leur offrir une solution en crèche municipale, en crèche privée. Les villes de droite comme de gauche d'ailleurs, on se tourne maintenant vers des crèches privées en DSP, et notamment la ville de Colombes qui l'a développée, une ville spécialiste. Donc nous sommes vigilants, effectivement, vous parliez de contrôle sur ces DSP, c'est notre objectif. Je réunis d'ailleurs cette semaine l'ensemble des directions des crèches privées. Je vais mettre en place dès septembre les conseils de parents, qui va être une instance d'information, de décision. Nous allons faire participer les parents à la vie de la crèche sur le règle de fonctionnement, sur l'organisation intérieure, sur les projets pédagogiques. Cela aussi passera par un espace d'information aux parents et d'échange avec la direction pour pouvoir aussi avoir de contrôle dans ces crèches privées. Il y a un rapport annuel d'activité dans chaque DSP. Les services financiers contrôlent et examinent ces rapports annuels d'activité. Le service juridique et la service de la petite enfance contrôlent également les DSP. Ils sont contrôlés par le Conseil général et la CAF. Et je pense que ça passe par un meilleur échange avec les parents, avec les directions, avec les conseils de parents que nous mettrons en place dès septembre. C'est aussi un moyen de mieux contrôler les choses dans les crèches privées.
Si je peux répondre, en fait, concrètement, ce n'est pas le système de DSP que je remets en cause. Ça, c'est des raisons multiples pour lesquelles on fait une DSP. Actuellement, ce que je constate, c'est que sur People and Baby, en 2012, le seul contrôle qu'il y a eu est un contrôle interne fait par People and Baby et par une structure externe à la mairie. Ma question est donc très simple. Actuellement, quels contrôles sont mis en place par la mairie? Je ne parle pas de venir le matin en crèche, je parle concrètement.
Vous avez dit la petite enfance, monsieur. Contrôle, le service juridique, il y a des contrôles inopinés. Il y a des rapports annuels d'activité et plus de présence dans les crèches privées.
Alors justement,
moi, je n'étais pas auparavant là. Hein,
oui, je sais bien, mais moi non plus. Donc, mais concrètement, actuellement, combien de contrôles sont effectués?
Il y a des enquêtes de satisfaction aussi auprès des parents qui sont faits dans les crèches privées.
Oui, mais actuellement, combien de contrôles sont faits? Je ne sais pas, par mois, par les services de la mairie, c'est combien on peut évaluer ces contrôles?
Tous les deux mois, il y a un rapport, en tout cas, de mon service de la petite enfance et se rendent dans les lieux, et puis moi je pense qu'aussi ça passe par l'élu. L'élu doit aller dans les crèches, voir ce qui se passe, avec ce conseil de parents qui se réunira 3 fois par an. Donc cela nous permettra aussi d'être bien informés sur ce qui se passe dans ces structures privées.
J'ai une dernière question concernant la commission d'attribution des crèches. L'opposition n'est pas pour l'instant représentée.
Alors... C'est par le lieu politique. Les commissions d'attribution, depuis la mise en place, depuis la prise de fonction.
C'est
important effectivement de mettre en place.
Ils font pas de la politique.
Monsieur Lasserre, écoutez-moi, vous êtes, je vous en prie, vous avez bien commencé.
C'est comme pour les logements.
Oui, non, mais
Vous pouvez écouter en deux. Non, mais on n'est pas au théâtre, vous dites, M. le maire.
Non, mais attendez, écoutez, arrêtez de dire des ineptie. Enfin, on n'est pas, ce n'est pas un lieu politique. Les commissions
d'attribution. Vous avez la science infuse, M. le maire. Les commissions d'attribution de façon fraîche. Vous pouvez l'écouter ?
Aïe, aïe, aïe.
Depuis ma prise de fonction, j'ai donc mis en place des commissions élargies, avec des professionnels de la petite enfance. L'ensemble des directrices de crèche, à la fois municipales et privées, nous réunissons ces commissions d'attribution par quartier. Nous examinons le nombre de demandes, le nombre de places en crèche. Ce ne sont pas des lieux politiques, monsieur Lasserre. Le bien-être des familles.
Non, ne faites pas du chantage au bien-être, ça ne tient pas la route. Ce que nous disons tout simplement, c'est l'obligation de transparence.
Alors,
la transparence est garantie par la présence de toutes les composantes d'une municipalité. Et ceci, c'est la règle qui s'applique partout. Dès lors qu'on attribue des crèches, dès lors qu'on attribue des logements partout, il y a des villes qui le font, ça se passe très bien.
Voilà. Je vais vous répondre.
Donc,
une commission,
c'est politique, ça veut dire qu'on va, on ne peut pas y
participer. Monsieur Lasserre, c'est une commission élargie avec des professionnels de la petite enfance. Je vous le rappelle. C'est finalement donner de l'importance aux directrices de crèche, à la fois municipales et privées.
S'il vous plaît, je vais intervenir quand même. Il y a quand même eu un contexte de... Il y a un scandale d'HLM dont on a énormément parlé. Laissez-moi continuer. Non mais attendez, vous avez vu un peu, Courbevoie a fait, qui est une ville dont on parle peu, a fait des titres très forts là-dessus. Une réponse serait simple, ce serait la transparence sur cette commission-là. Maintenant, je passe sur les crèches. La transparence est une solution. Maintenant, je ne connais pas le détail de la composition des commissions. Mais attendez, est-ce qu'une directrice de crèche en délégation de service public peut sérieusement s'opposer à vous, qui êtes adjointe, avec une délégation de service public? Il faut se poser ces questions-là. Et dans les autres villes, vous savez très bien la sensibilité qu'ont ces attributions de places de crèche. Pourquoi, alors, je vous pose une question ouverte, pourquoi ne mettez-vous pas des gens qui effectivement ne dépendent pas de vous, et notamment des élus de l'opposition, pour une fois pour toutes montrer, protester de votre transparence et montrer, c'est quand même le cas dans énormément de villes, pourquoi cette satanée ce culte du secret.
Vous allez regarder ce qui se passe dans les autres villes, je veux dire. Vous n'êtes pas effectivement au courant de la composition de la commission d'attribution. Aujourd'hui, la commission est élargie. Il y a la directrice de la petite enfance, la coordinatrice des structures d'accueil, l'ensemble des directrices de crèche, à la fois municipales et privées. C'est une prise de décision collégiale qui veille à la mixité dans les crèches. C'est le plus important. Ce ne sont pas des lieux politiques, monsieur.
Si vous mettiez quelqu'un de l'opposition dans ces crèches,
lieu pourrait-il.
Nous sommes. Nous, moi, je
c'est
je,
notre politique, pas seulement Thomas.
Madame, je vous donne un exemple. La loi me permet, moi, d'être dans la commission d'appel d'offres. Je peux me rendre compte de ce qui se passe et aussi me rendre compte que ça se passe correctement. Pourquoi, si vous n'acceptez pas que l'opposition soit présente.
Non, mais c'est politique.
Vous. Donnez le flanc, vous prêtez le flanc à l'accusation d'opacité. C'est comme ça. Et ce vouloir, quand on voit quand même scandale qu'il y a sur la chaîne, ne pas bouger là-dessus, la confiance.
Non mais c'est politique. Ça veut dire que si on est ovale, c'est politique. Ça veut dire que si dans toutes les instances, on est censé être. Non mais justement, on ne devrait pas y être. Si on suit votre raisonnement jusqu'au bout, puisque c'est politique, on ne devrait pas y être. Le problème, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le pluralisme, la transparence. Et donc, toutes les composantes d'un conseil municipal doivent se retrouver partout où il y a des décisions de cette nature. Ou bien alors, il y a des systèmes de scoring, des crèches qui font que les choses, que ce soit pour les logements, pour les crèches ou pour d'autres, se fassent dans des conditions claires, compréhensibles, et qu'il y ait ce regard qui puisse être exercé par l'opposition. Ça se fait partout. Si chaque fois que l'opposition est quelque part, c'est parce que ça devient politique, on n'est nulle part. On est d'une part, on nous enlève de partout, du Conseil constitutionnel. Enfin, attaquer un bon raisonnement ne tienne pas la route. Je crois surtout que vous ne voulez surtout pas qu'on puisse être partie prenante. Surtout que quand nous y sommes, ça se passe très bien, on le voit dans d'autres instances d'ailleurs. Donc, ce qui montre que c'est plutôt en faisant la sorte que l'on permet.
Les directives de l'eau sont des professionnels, elles sont capables de nous donner des arbitrages au niveau des critères.
N'opposez pas les professionnels aux conseils municipaux. Nous avons une légitimité complémentaire de la leur. Ou alors, ça devient une affaire de professionnels, pas d'opposition, pas de différence, ce sont des subordonnés. Et puis, on reste entre soi. Mais c'est ce que vous voulez peut-être, Madame Taquina. Oh, écoutez,
je conseille quand même.
Voilà, pour le coup, un peu.
Parler de critères aussi, l'attribution dans notre des villes un peu modernes, on a des critères. Quels sont les critères?
Des critères. Nous avons des critères aujourd'hui de l'attribution.
Lesquels?
Pour vos voisins, les parents qui travaillent tous les deux, une attention particulière aux familles monoparentales, aux familles, familles à minima sociaux, aux familles porteurs de handicap. Nous favorisons la fratrie quand un aîné, quand l'aîné est dans une crèche, nous favorisons. Le deuxième enfant, nous avons aussi des critères d'arbitrage, l'ancienneté. Nous avons des critères dans ces commissions d'attribution. Donc,
et là, nous serions,
vous n'avez pas de transparence.
Pouvez-vous les donner, s'il vous plaît? Nous serions preneurs de documents.
Le document,
je suis en train de faire
un document écrit, madame, s'il vous plaît. Écrit. Un document écrit avec des critères, s'il vous plaît.
Écrit.
Enfin, je constate quand. Je constate quand même.
Je vais finir.
Je constate quand même que, actuellement, il y a des commissions qui se réunissent toutes les semaines entre élus de l'opposition et élus de la majorité, qui se passent très bien, auxquels j'appartiens. Je passe une journée complète en mairie toutes les semaines, et nous n'avons aucun problème. Il n'y a aucun problème de confiance, et je ne comprends pas pourquoi ces commissions fonctionnent et que d'autres ne pourraient pas fonctionner sur le même schéma. Et notamment les crèches et les HLM, ce sont deux sujets sensibles. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Et croyez-moi, quand on s'agit de travailler pour le bien des voisins, on sait travailler en bonne intelligence. Il y a des élus UMP qui pourront vous confirmer. C'est tout ce que j'ai à dire.
Merci. Monopole d'intérêt, je vais voir.
Qui s'abstient? Les esprits qui comptent. Merci. Dossier suivant, madame. Taquina. Vas-y.
Taquina, c'est pas de la plus.
Alors, deuxième délibération sur la question du maître, les délégations de service public pour la gestion des structures d'accueil de la petite enfance actuellement sont sur la ville de Courbevoie, en plus c'est une durée de 6 ans, et donc afin d'harmoniser la durée de la délégation de service public pour la crèche Armand du maître, conclue pour une durée de 5 ans, il est proposé le présent avant de prolongation. La convention se terminerait donc ainsi le 31 juillet 2015. Par ailleurs, à compter du 1er août 2014 et jusqu'à la fin de la convention, le montant horaire fixe par enfant est modifié et s'élèvera à 1,40 € au lieu de 2,01 € actuellement. La commission délégation de services publics, qui s'est réunie le 6 juin 2014, a émis un avis favorable. Il demandait au conseil d'autoriser M. le maire à signer et exécuter l'avenant numéro 2 à la convention délégation de services publics relative à la gestion de la structure d'accueil Armand-Sylvestre située 55 rue Armand-Sylvestre à Courbevoie, prolongeant sa durée jusqu'au 31 juillet 2015.
Question. Dans le cadre de la prolongation de la convention, il était décidé de fixer le montant horaire par enfant à 1,40 € au lieu de 2,01 € actuellement. Qu'est-ce qui justifie cette réduction de la participation municipale?
Comme je vous l'ai indiqué dans la délibération, la crèche Armand-Sylvestre fait partie des premières délégations de la ville à passer. Nous avions effectivement ces délégations sur 5 ans. Là, nous avons l'opportunité, avec les dispositions du Code, de prolonger un an. Ça nous permet effectivement d'avoir une économie sur ce prolongement et nous le faisons.
Alors pourquoi pas sur le Petit Prince 2, puisqu'on a 2,01 €?
Non, c'est pas pareil. Là, nous avons, c'est partie des premières délégations que nous avons passées avec, au niveau de la ville. Donc, en fait, au départ, on voulait savoir comment ça se passait, donc on les a faites sur 5 ans. Mais toutes les délégations aujourd'hui sont sur 6 ans.
Ça, j'ai bien compris. Mais par contre, donc, la différence entre ce que vous n'avez pas payé, qui va payer, c'est les parents. La différence, je dirais, d'un euro. Non, c'est toujours entendu.
Là, ça nous fait effectivement un taux horaire très avantageux.
Oui, pour nous. Enfin, pour la municipalité, mais pour les parents, c'est eux qui vont payer le delta ou pas? Qui va payer?
Non.
Il n'y aura pas de hausse pour eux. D'accord.
Qui s'abstient? Dossier suivant.
La crèche Armand-Sylvestre, d'une capacité de 55 berceaux, est destinée à l'accueil régulier temporaire des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans dont les parents résident à Courbevoie. Elle est gérée en délégation de service public depuis le 4 août 2009. Un avenant de prolongation est en cours, fixant la fin de la délégation de service public au 31 juillet 2015. Il convient aujourd'hui de relancer une consultation. La nouvelle convention prendra effet au 1er août 2015. Et pour une durée de 6 ans, la date prévisionnelle d'ouverture de la crèche est le 1er septembre 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver, au vu du rapport transmis avec la convocation à la présente séance présentant les caractéristiques des prestations que devra assurer la délégataire, le principe de délégation de service public pour la gestion de la crèche Armand-Sylvestre, située 55 rue Armand-Sylvestre à Courbevoie, étant précisé que la délégation de service public est conclue pour une durée de 6 ans, d'autoriser le lancement d'une procédure de délégation de service public pour la gestion de la crèche Armand-Sylvestre.
Suggestion. Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà, très bien, merci, monsieur Acker.
Avis sur la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement par la société Distribution de Chaleur Clichy, située 21 de Tournier à Clichy-la-Garenne. La société Distribution de Chaleur Clichy, SDCC, dont le siège social est situé au PL 150 Corse-Pouvoir à l'adossement en face à a sollicité monsieur le préfet des Hauts-de-Seine afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter une chaudière biomasse et un bâtiment de stockage à l'adresse suivante, 21 à Clichy-la-Garenne, activité soumise à autorisation sous les rubriques 2910A1, 2910B2A et 3110 de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. En effet, le projet consiste à remplacer une actuelle chaufferie fonctionnant au fioul par une chaudière biomasse, bois et déchets de bois. La cuve de stockage du fioul sera également démantelée et substituée par un stockage de biomasse. Une enquête publique annoncée par voie d'affiche se déroule du 12 mai au 12 juin 2014 inclus à la mairie de Clichy-la-Garenne. Des observations ont pu être consignées par écrit dans le registre ou formulées oralement au commissaire enquêteur. L'arrêté préfectoral du 15 avril 2014 prévoit que les conseils municipaux de Clichy-la-Garenne, Colomb, Bois-Colomb, La Grève-Colomb, Amiens-sur-Seine, Gennevilliers, Courbevoie, Levallois, Perret, Neuilly-sur-Seine, Île-Saint-Denis, Saint-Ouen, Paris 8e, Paris 17e et le Paris 18e arrondissement donnent leur avis sur la demande de la société SDCC. Il est demandé au Conseil d'émettre un avis favorable à la demande de la société SDCC relative à l'autorisation d'exploiter l'installation classée pour la protection de l'environnement située 21 rue Fournier à Clichy-la-Garenne.
Oui, je l'en prie.
Alors, après échange avec certains de nos collègues clichois, en fait, nous souhaitons nous abstenir parce que l'autorité environnementale n'a pas donné d'avis sur la chaufferie. Et plusieurs questions sont en suspens, notamment l'augmentation nette de trafic amenant le bois à la chaufferie, en camion diesel, etc. Et voilà.
Abstention, qui est contre? Merci. Dossier suivant.
Avenant numéro 2, au marché relatif aux travaux d'entretien des espaces verts. À l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert relative aux travaux d'entretien des espaces verts, les lots suivants ont été notifiés aux sociétés suivantes. Lot numéro 1, arrosage conclu avec la société EGM et édité le 12 juillet 2010. Lot numéro 2, élagage en rideau conclu avec la société SNDA et notifié le 12 juillet 2010. Lot numéro 3, soins des armes libre abattage conclu avec la société SNDA à la même date. Lot numéro 4, aménagement minéral conclu avec la société Faveco Aménagement et notifié à la même date. Lot numéro 5, aménagement végétal conclu avec la société Marcel Villette et notifié le 15 juillet 2010. Une nouvelle procédure de renouvellement sur les marchés est en cours. La période estivale de fin de marché n'étant pas opportune et pouvant conduire des difficultés de mise en œuvre en cas de changement d'hiver, les avenants numéro 2 à l'ensemble de ces lots ont pour objet de prolonger de 4 mois la durée de chaque marché, soit jusqu'au 12 novembre 2014 pour les lots 1, 2, 3, 4 et jusqu'au 15 novembre 2014 pour le lot numéro 5. Les lots numéro 2 à 5 ont des marchés à bon de commande, en faisant du minimum ou maximum. Les pourcentages d'augmentation de chaque lot admis par ces agents numéro 2 ne peuvent être déterminés en raison d'absence de montant minimum et maximum. Le lot numéro 1 est un marché mixte avec une partie à forfait, une partie à bon de commande sans montant minimum ou maximum. Le montant d'agent numéro 2 au lot numéro 1 s'élève à 30 578 euros en taxe, soit un pourcentage d'augmentation de 7,08%. Je demande au Conseil d'autoriser M. le maire à signer et exécuter les avenants numéro 2 au lot numéro 1, 2, 3, 4 et 5 du marché relatif aux travaux d'entretien des espaces verts.
Merci. Question. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier suivant.
Avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux d'entretien des voies communales. À l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouverte relative à l'entretien des voies communales, les jours suivants ont été conclus avec la possibilité de tracer, traiter le conseiller des hommes. Le numéro 1 voirie construit plan. Le numéro 2 voirie produit bitumineux. Une nouvelle procédure de renouvellement de ces marchés est en cours. La période estivale de fin de marché ne sera pas opportune et pourront conduire à des difficultés de mise en œuvre en cas de titulaire. Un temps numéro 1 pour ces deux lots ont pour objet de prolonger de 4 mois la durée de chaque marché afin de porter la fin de ce marché au 12 novembre 2014 inclus. Les lots numéro 1 et 2 sont des marchés à bon commencement. Le montant minimum de 30% pourcentage d'augmentation de chaque lot induit par ces attentes numéro 1 ne peuvent être déterminés en raison de l'absence de montant minimum et maximum. Il est demandé au Conseil d'autoriser M. Maire à signer et exécuter des attentes 1 au lot numéro 1 et 2 à conclure avec la société du VATTP du marché relatif aux travaux d'entretien des voies communales.
Question. Oui, madame.
On entend pas produit blanc.
C'est les produits qui ne sont pas les produits bitumineux. Il y a les produits bitumineux qui sont plutôt sur la route, c'est-à-dire les trottoirs avec d'autres produits différents. C'est des techniques différentes et des trottoirs. Alors,
c'est quoi
produit
blanc?
Qui s'abstient et contre? Merci. Dossier suivant.
Marché de maîtrise d'œuvre pour la requalification de la place Evol, indemnisation des candidats. Une procédure de concours restreinte conformément aux articles 70 et 74 du code des marchés publics a été lancée en début passé. Un marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la place Evol. Le marché est prévu pour une durée de 24 mois à partir de la notification du marché. Les trois équipes désignées lors de la sélection des candidats par le jury sont invitées à remettre un projet d'esquisse. L'indemnité de 30 jours par candidat est fixée à 7 000 € hors taxe. Il est demandé au Conseil d'approuver le montant de l'indemnité fixée à 7 000 € hors taxe par candidat, qui sera versée aux trois équipes désignées par le jury. L'indemnité versée au titulaire finalement sera à titre d'avance sur ses honoraires.
Question ?
Oui, madame. Alors, j'ai dû louper quelque chose, mais ça consiste en quoi l'aménagement de la place Evol ?
Alors là, normalement, c'est uniquement le calcul de l'indemnité qui est là.
Je n'entends pas.
Je ne sais pas si on doit s'appesantir sur votre question, parce que ce n'est pas l'objet de cette délibération. Mais si vous voulez, la place Evol participe de tout ce qui se fait dans le cœur de l'île. C'est-à-dire que Courbevoie, depuis 2000 ans, est une ville de transit, où les gens ne font que passer. Et maintenant, ça devient une ville agréable à vivre, où les gens se posent. C'est ce qu'on a fait au début de la rue de Beson, et c'est ce qu'on fait à des tas d'endroits. C'est-à-dire que la place Evol, c'est pas simplement le croisement en plein milieu de Courbevoie avec des tas de voies, mais on veut le transformer en grande place urbaine avec un parvis devant l'église ancienne. Et c'est une opération compliquée de, à la fois, respecter le transit, parce que si ça se bloque dans ce coin-là, c'est une catastrophe pour toute la ville. Et d'autre part, c'est le cœur de ville. Donc, pour que cette place soit une place agréable, on va plus loin que le parvis et ce carrefour, on pousse un petit peu plus loin, et donc ça sera un programme paysager extrêmement important pour la ville et pour le cœur de ville.
Et alors, parce que ma question, c'est la place Evol, vous convenez que la place Evol a été vient d'être inaugurée. Donc ça ne va pas toucher la place Evol elle-même. Ce sont les alentours.
Non, il y a eu un aménagement parce que pour l'instant, cette place qui est quand même importante pour la ville. Vous avez vu qu'on a fait un aménagement avec l'abbé Pierre qui a une soixantaine d'années à prononcer un discours important, c'est symbolique de chaque chose. On veut quand même donner une autre allure à cette place. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, depuis qu'on a fait ce parvis, il y a des tas d'enfants qui viennent, il y a des élèves et leurs professeurs. Ça y est, ça devient un lieu où on se pose. C'est plus du transit et du garage à bagnole. Donc, c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est, je pense que vous comprenez très bien que c'est tout à fait important.
Et je comprends pas, M. Aka, mais ma question, c'est est-ce que la place Evol, qui a fait l'objet de l'aménagement, qui a été inauguré, est-ce que cette partie-là va être touchée?
On a aménagé juste le début du parvis devant mais c'est 10% de, ou même pas 3% de tout l'aménagement. La place Hérode, elle va beaucoup plus loin, elle va jusqu'à la rue de Colombe, elle va, etc. Avec des, et puis en fait, depuis qu'on revient à la rue de l'Allemand, c'est donné une perspective avec l'église au bout, etc., etc. Alors, bon, c'est pas le sujet, on va pas détailler.
Non, mais c'est, enfin, le sujet, c'est de savoir pourquoi des équipes vont travailler. Hein. Voilà, on s'interrogeait sur le fait que ce soit la place Hérold au sens strict. Donc, c'est vraiment les contours. Et vous affirmez donc que la place Hérold ne va pas faire l'objet de modifications. Ce qu'elle vient d'être inaugurée au début de l'année ne sera pas touché.
Alors, on a. Non, ce qu'elle est faite ne sera pas touché. Mais on a donné des esquisses pour travailler, pour dire dans quel sens on va travailler. Mais on espère bien, en faisant un concours, qu'on aura des idées intéressantes, qu'on n'avait pas vues, etc. C'est pour ça qu'on fait un concours. On ira plus loin. Mais naturellement, on part. C'est déjà un embryon d'idées, ce parti, et ça donne le sens qu'on veut donner à tout l'aménagement.
Pour être très clair, madame, pour répondre à vos questions, on ne touchera pas dans le projet tel qu'il est, notre appellation ne touche pas au parvis qui vient d'être livré, qui vient d'être bougé.
Donc ce sera marqué dans le programme d'esquisse. D'accord.
Merci. Qui s'abstient ? Oui, pardon,
Je vais poser une question à monsieur Lacarde, s'il vous plaît, madame. La place Hérold n'est toujours pas aux normes complètement pour les handicapés, monsieur Lacarde.
Ce sera justement un des buts. Vous voyez, la rue de Beson, par exemple, on va mettre tout ça en plateau, les voitures circulent, les piétons circulent, les TNR circulent tranquillement, c'est dans cette philosophie-là.
C'est toujours en fait aux normes complètement, parce que vois qu'il y a une passage piéton notamment qui va venir vers la rue de l'Allemagne, ça passera la transition. Ici, en fait, il y a encore une transformation de 30 cm.
Vous savez, les travaux, faire des travaux dans ces cas avec un cours, ça peut être fait qu'à des moments tout à fait particuliers, parce que la circulation,
juste une précision, on est obligé de travailler en deux temps, parce que la voirie est une voirie départementale, donc il faut qu'on travaille avec le conseil général, et on n'est pas sur la même temporalité. Il y a un travail plus global qui va s'engager au moment où on traitera le carrefour.
C'est bon, qui s'abstient, qui est contre ? Merci, dossier suivant.
Festival Atmosphère, édition 2015, 2016 et 2017. Depuis plusieurs années, la ville s'est engagée à soutenir l'association Atmosphère 21 qui organise à son initiative chaque année un festival de cinéma et de culture au service du développement durable, dit Festival Atmosphère. Son succès public est grandissant. Plus de 15 000 visiteurs y ont été accueillis cette année lors de la Semaine européenne du développement durable. Nous souhaitons donc poursuivre notre partenariat avec l'association Atmosphère 21 afin de soutenir l'organisation de ce festival annuel pour les 3 prochaines années. Ainsi, une convention de partenariat a été élaborée pour fixer les obligations réciproques de chacune des parties et conditionner le versement de la subvention de la ville d'un montant de 100 000 euros et sa participation matérielle à cette opération par la mise à disposition de moyens humains et de lieux publics dans lesquels seront projetés les films et son dispositif de communication valorisé à hauteur de 56 000 euros. Un comité de pilotage sera chargé de veiller à la bonne exécution de ce partenariat en validant notamment les grandes orientations du programme de la manifestation et le plan de communication. Un comité d'organisation, composé des services municipaux et des représentants de l'association Atmosphère 21 et des partenaires institutionnels, se réunira régulièrement pour assurer la logistique de cette manifestation. Il est demandé au Conseil d'approuver la convention de partenariat à conclure avec l'association Atmosphère 21 pour l'organisation du festival Atmosphère pour les éditions 2015-2017 en 2017, d'autoriser M. le maire à signer cette convention ainsi que tous les documents y afférents et à l'exécuter.
Question.
Oui, moi j'aimerais savoir quelle va être la part du budget de ce festival consacré au film. Parce qu'on a vu les précédentes éditions que cette part était assez faible par rapport à l'ensemble. Est-ce que vous avez un chiffrage là-dessus ?
Pourquoi faible ?
Ben, l'essentiel de ce festival, c'est des projections de films, on est bien d'accord ? Non,
non.
Non, mais je pose la question.
Non, pas du tout.
Il y a des conférences, d'accord, mais les conférences, elles ne sont pas isolées, elles sont le suite à une projection de film.
Non.
Bah, je ne sais pas.
Les manifestations qui se font à Défense,
oui.
Les conférences qui ont lieu à Défense, les expositions qui ont lieu à Défense n'ont aucun rapport avec les films.
D'accord.
Les musiques, les acteurs de théâtre qui viennent, qui composent des pièces spécialement pour le festival, les acteurs connus qui viennent lire des textes, etc., ça n'a aucun rapport avec les films. C'était justement l'originalité de ce festival, parce qu'il existe un festival à la Fagot qui est organisé par le Conseil national, qui est là, se consacre uniquement au film. Je ne vais pas dire que les gens sont méchants, mais les gens qui vont dans ce festival qui vont dans l'autre, il n'y a pas photo. Hein. Et vraiment, s'il y a des gens comme l'ADEME ou des sociétés privées importantes qui commencent à venir, à revenir, etc., et on a beaucoup de sponsors, etc., c'est qu'ils y trouvent quelque chose de différent. Et en fait, on prend le vecteur du cinéma parce que c'est un vecteur d'émotion. Parce qu'il ne faut pas que le développement durable soit une chose ennuyeuse, mais on prend tous les autres vecteurs de la culture au service du développement durable. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une époque où il y avait le ton moraliste, etc. Maintenant, le développement durable commence à être intégré dans les styles des habitants, des gens, et on passe à un autre au stade du sensible, du vécu, de l'intérieur.
D'accord. Alors, je vais reposer ma question autrement. Quelle est la part du budget dans ce festival consacré aux manifestations artistiques? Et comment est-ce que vous chiffrez le nombre? Parce que vous parlez de 15 000 visiteurs. Si je repense à ce qui s'est fait, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, sur le parvis de la Défense, c'est très difficilement chiffrable le nombre de visiteurs, puisque ce sont des œuvres d'art qui étaient au pied de l'arche en extérieur.
Non, parce que sur la Défense, il y avait des personnes qui avaient des tickets pour compter les gens qui rentraient.
Ah ben, moi, on ne m'a pas donné de ticket quand je suis passée devant les œuvres d'art. Hein. D'accord. Donc,
vous avez le comptage.
Ah oui, sur le parvis de la Défense. Bon, je veux bien, enfin bon.
Une idée de la fréquentation sur la Défense.
D'accord.
En fait, il y en avait même un peu plus, mais
alors,
c'est pas le nombre.
D'accord. Donc, est-ce qu'on peut avoir quand même une idée dans le budget de la part qui va être consacrée aux artistes, de la part qui va être consacrée aux conférences, de la part qui va être consacrée aux films? Voilà. C'est...
Alors, de toute façon, la subvention de la ville est fixe. Pas la dépasser, et si on veut augmenter nos prestations, il faut trouver des sponsors à l'extérieur et qu'on démarche à l'extérieur. Déjà, il y a 140 000 euros qui viennent comme ça de l'extérieur. On a des subventions de la région, du Conseil général, de l'ADEME, etc. Donc, c'est toute cette part qu'on cherche à développer et on se bride de façon à ne pas demander une subvention supérieure à la ville.
Monsieur Acker, c'est pas nous qui gérons le budget.
C'est pas nous qui gérons le budget. Des limites de
la subvention.
Oui.
Le budget est globalisé.
Oui, c'est un budget de 500 000 euros d'ailleurs.
Alors, sur la convention, il est effectivement question de sponsors. Est-ce que vous savez déjà quels sont ces sponsors? Et justement, vous parlez de 140 000 euros qui viennent de l'extérieur. Quel est l'apport de ces sponsors pour ce festival?
Alors, il y a des sponsors aussi qui sont en nature, c'est-à-dire que Toyota, par exemple, fournit des voitures. Il y a des hôtels qui fournissent des champagnes gratuitement.
Voiture électrique, j'espère.
Oui, bien sûr.
D'accord. Non, mais il faut que ça soit cohérent.
Pour la part des films, il s'agit de films qui sont nouveaux. C'est au dernier moment qu'on a des films, comme dans tous les festivals, qui viennent de sortir. Des fois, ils sont encore en montage.
Heureusement, il y a le festival de Berlin qui a eu un peu avant où on peut voir les couleurs d'arrivée, et parfois je les traduis et pour faire des soupirs. Donc ça, ça revient très cher. Mais c'est un film extraordinaire, il faut bien le prendre. Donc c'est difficile à chiffrer à l'avance, et c'est une des difficultés si on veut quelque chose d'intéressant, au dernier moment de faire les derniers réglages.
Dans le budget, dépenses artistiques, licence film et travaux techniques, 25 000 euros. Sélection des films et régie copie, 25 000 euros. Et débat film, 5 000 euros. Voilà ce qui concerne le budget de 470 000 euros, mais qui est le budget du Festival de Postfer, qui n'est pas le budget de la ville.
Oui, j'ai bien compris.
Parce que j'ai comme renseignement.
D'accord, merci.
Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci, monsieur Aka. Monsieur Jean.
Suivre la candidature du printemps des artistes et règlement de l'eau. La ville invite à ouvrir le temps de l'Américain sur la base du volontariat et porte des ateliers qui ont lieu depuis des artistes plasticiens, professionnels, vivants et travaillant à Courbevoie, engagés dans le champ des arts visuels, peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, installation. Cette manifestation aura lieu les samedis 21 et dimanche 22 mars 2015, de 14 à 19h. Les personnes souhaitant participer au printemps des artistes peuvent présenter leur candidature du 13 octobre au 14 novembre 2014. Le règlement du concours soumis ce soir à votre approbation permet de fixer les conditions de participation à ces portes ouvertes et précise le contenu du dossier de candidature. Je demande au Conseil d'approuver le règlement intérieur et le dossier de candidature et d'autoriser M. le maire à signer tout document et à faire.
Question. Et ça tient.